les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient: Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Jésus dit encore: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit: Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais repartir pour retourner chez mon père. Je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, faisant un joyeux repas. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. Lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit: Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer, mais le fils répondit à son père: Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. Le père lui dit: Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devrions faire une joyeuse fête et être heureux car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et je l'ai retrouvé. Amen. Tout le monde, je crois, connaît ce texte. Et je parie même qu'après Jean 3, 16, c'est le texte, ce texte-ci est à la deuxième place, la plus lue, la plus connue de tous dans la Bible. Et même ceux qui ne connaissent pas du tout la Bible, ils ont déjà entendu cette parabole qui est toujours dit la parabole du fils prodigue, mais moi je le dirais plutôt la parabole des fils prodigues. Les deux sont les fils prodigues, non pas seulement le cadet. Et même, il y avait eu pas mal d'histoires, beaucoup d'expressions qui ont été formulées à partir de cette histoire dans la vie courante de tous les jours. Moi, personnellement, ce genre de texte, je la compare à un immense gisement d'or inépuisable et même renouvelable. Plus on entre en profondeur dans ce genre de texte trop connu, plus il y a encore des richesses inouïes à découvrir. C'est vrai que beaucoup de prédications ont été faites à partir de ce texte, des tracts d'évangélisation, des méditations, des réflexions qui ont été faites sur base de cette histoire. Mais je vous assure, ce texte regorge encore d'autres vérités. Regardez bien la façon dont le lectionnaire a fait le découpage textuel. Déjà, la façon dont le lectionnaire a découpé le texte nous donne une orientation dans notre compréhension de l'histoire des fils prodigues. Le lectionnaire a juste pris les deux premiers versets du chapitre 15 et après il saute au verset 11 à 32. Pourquoi? C'est fait exprès. Ce découpage, ici, nous donne déjà une sorte d'éclairage pour lire la parabole. Car sans ces deux versets, en tout cas, moi personnellement, ma compréhension de cette parabole serait autrement. Et on n'a pas besoin de faire des années d'études en faculté de théologie pour comprendre que la parabole sur les deux fils prodigues ici était destinée alors, si vous lisez les deux premiers versets, à illustrer les comportements des deux groupes de personnes. Au verset 1 et 2, d'un côté les collecteurs d'impôts et les pécheurs, et de l'autre côté les pharisiens et les scribes. Ces deux groupes d'individus sont représentés dans cette parabole des fils prodigues. Et là, ça change tout dans notre façon de lire ce texte. Souvent, on est tout de suite orienté vers un message pour évangéliser les gens qui sont en dehors du royaume de Dieu. Or, c'est faux. On parle ici, on s'adresse à ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu. Dans cette représentation que Jésus donne, ici, le fils aîné, qui est resté à la maison et qui se présente comme étant ces pharisiens, des fils obéissants, tandis que le cadet, celui qui est parti dilapider son héritage, n'est autre que les collecteurs d'impôts et que la société appelle les pécheurs, les personnes de mauvaise réputation. Dans cette représentation que Jésus donne, l'auteur dévoile que celui qui se croyait à l'intérieur du royaume de Dieu est tout compte fait à l'extérieur. Et vice-versa, celui qu'on considérait comme étant à l'extérieur, finalement, c'est eux qui se trouvent au plus près du Père. On retrouve cette même ligne théologique chez Matthieu, mais cette fois-ci à travers la parabole, et regardez bien le parallélisme, à travers la parabole des deux fils aussi, que leur père avait envoyés dans la vigne. L'aîné qui dit, oui, je vais y aller, mais finalement, il n'est pas parti. Le cadet, non, je ne vais pas y aller, mais lui, il est parti. Regardez toujours la thématique des deux fils. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a cette ligne aussi déjà depuis la Genèse, Caïn et Abel, ainsi de suite, Ésaü et son frère? Cette trame, on le voit bien dans la Bible. Et pour donner suite à cette parabole, Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 21, verset 31, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, suite à cette parabole. Alors là, ça nous met mal à l'aise. Est-ce que Jésus exagère? Il n'est pas question d'ordre ici, mais plutôt une idée de bouleversement. On ne va pas dire qui sera le premier dans le royaume de Dieu, mais tout est bouleversé dans le royaume de Dieu. Plus précisément, de quoi s'agit-il? Tout compte fait, aux yeux de Jésus, les deux fils étaient sur le même pied d'égalité. Le cadet, lui, se comportait en un fils indigne. Pourquoi? Il ne se sentait pas libre tout en étant dans le foyer familial. Il se sentait comme étouffé de la protection de son père et il voulait s'émanciper, partir loin de la maison. Mais il a fallu qu'il devienne plus bas que les cochons, que les porcs, pour se rendre compte de la valeur, de la place qu'il avait. Il ne savait pas le sens et la valeur de son titre fils héritier. Il se sentait comme un prisonnier chez lui. Et ce mot fils héritier a tout à coup pris un sens nouveau pour lui. Et la valeur de ce mot héritier, lorsqu'il était une fois à l'extérieur du foyer familial, il ne savait pas ce que ça veut dire être un fils héritier quand il était encore dans la maison du père. Mais quand il était à l'extérieur, c'est là qu'il avait compris l'importance qu'il avait. Il avait une sorte de rétrospection sur la vie qu'il avait, ce qu'il est devenu et la place des serviteurs de son père et les porcs qu'il était en train de s'occuper. Quelle était la faute ultime du fils cadet? Ce n'est pas le fait de partir et de lapider tout ce qu'il avait, c'est l'oubli, la négligence de la place qu'il a. Il n'est pas conscient qu'il est héritier. Il se considère comme un esclave ligoté et qui ne peut pas vivre sa vie. C'est là son problème. Et maintenant, regardons le fils aîné. Lui aussi, il était au même niveau, c'est pour ça que je dis que ce sont les deux fils prodigues, au même niveau que le cadet, car il espérait que son père puisse remarquer sa soumission. T'as pas remarqué que je t'avais obéi depuis toujours? Il espérait marquer des points, comme s'il fallait remplir des points, comme en Chine aujourd'hui. Vous savez tous, en Chine, chaque citoyen est coté par des points pour espérer en retour un bon traitement de faveur de l'État, du gouvernement. Donc, son comportement est loin d'être une attitude d'un fils aîné qui, en principe, rappelez-vous, le fils aîné est sur la première liste d'héritiers du trône. Lui aussi, il a oublié cette réalité-là. Son père était obligé de lui rappeler, mais tu oublies que tout ce qui m'appartient est à toi. Je n'ai pas besoin de te payer pour ça, mon cher fils. Alors, c'est quoi aussi sa faute, comme le cadet? Il essayait d'acheter la faveur de son père par une obéissance masquée. Et voilà le mot, obéissance masquée. Mais le masque tombe quand son petit frère est revenu à la maison. Au lieu d'être joyeux, il fut choqué. Parce que dans sa tête, il se dit, ma part d'héritage va devoir encore être réduite à cause du retour du cadet. En somme, les deux fils, les deux n'aimaient pas leur père. L'aîné, il n'aimait pas le père. Le cadet, il était impatient de la mort de son père. Quand est-ce que père va mourir pour que je puisse en profiter? Et l'aîné aussi, il n'avait qu'un seul objectif, être le seul héritier. Pas partager avec le frère. Je serai le seul. Vous imaginez ces deux frères qui habitaient ensemble, mais ils étaient tous égoïstes. Derrière leur idée, ils avaient un projet bizarre. Et on dit que c'était les fils de ce monsieur. Mais ce qui fait la grosse différence quand même entre les deux, c'est que le cadet, lui, après tout ce qui lui est arrivé, il est conscient qu'il est vraiment en dehors du foyer familial. Tandis que l'aîné, lui, il croit être encore au-dedans, mais il se comporte en esclave, comme s'il doit prouver quelque chose pour mériter sa place. Alors la réflexion pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, dans quel esprit nous comportions-nous? Dans un esprit de fils ou de fille héritière, ou de mercenaires du royaume de Dieu. Comme s'il nous fallait motiver par une quelconque promesse afin de se lancer et de se donner à Dieu. Quand on fait des réunions dans les assemblées de district, ou au niveau du synode, ou dans les consistoires, parfois c'est la question qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser ou mobiliser les paroissiens? Mais il ne faut pas, s'ils se sentent vraiment héritiers du royaume de Dieu. Est-ce qu'il faut une promesse en plus pour inciter les gens à se donner à Dieu? Non. Ils deviendront des obéissants, mais avec une obéissance masquée. Peut-être que certaines personnes disent que non, je suis sauvé par la grâce et que ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent, un bon protestant. Mais quand même, j'ai besoin d'une prime ou d'une récompense sous la forme de bénédiction pour mieux servir Dieu. Vous voyez, c'est encore... Il y a de l'égoïsme. C'est vrai qu'on a pas, on a tous besoin de bénédiction. Mais parfois, on fonctionne ainsi. J'ai besoin de bénédiction pour mieux te servir, Seigneur. Ce n'est pas mauvais en soi, mais est-ce que c'est la motivation qui te pousse à servir Dieu? Pierre aussi avait ce même réflexe en posant une question à Jésus dans Matthieu 19, 27. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah, le pauvre Pierre. Pendant qu'il suivait le Christ, pendant 3 ans, il avait un calcul dans sa tête. Je serai ministre de la pêche ou peut-être chef de cabinet, je ne sais pas. Et voici ce que Jésus avait répondu. Amen, je vous le dis. À vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Et la suite, nous ne voulons pas le lire souvent, on s'arrête là. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. Et voilà l'expression qui revient encore une fois, mettant l'exergue l'importance d'être compté parmi le cercle familial. Le cadet avait compris la leçon, que la grâce de son père est largement au-dessus des bienfaits. La grâce de son père est au-dessus de la protection. La grâce de son père est plus que le toit. La grâce de son père est plus que les nourritures. Et plus que le conditionnement de vie agréable par rapport à son statut de fils, où il se trouvait avec les pauvres. Et c'est ça notre problème. Parfois, nous mesurons notre place devant Dieu en fonction de ce que Dieu nous donne. Ah donc, celui qui ne reçoit pas beaucoup, il n'est pas sous la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Analysons un peu le changement de paradigme qu'il avait ce fils cadet. Lorsqu'il était encore dans le foyer familial, pour lui le titre de fils héritier était saoulant. Je m'ennuie. Il s'ennuyait de son titre de fils héritier. Pour lui, c'était même une sorte de prison, d'étouffement. Mais une fois à l'extérieur, c'est là qu'il a réalisé que son soi-disant prison était une protection, une grâce inimaginable. Et la conscientisation du fait est que tous ces biens qu'il avait lapidés, même les autres serviteurs, pouvaient en acquérir autant par les fruits de leur travail. Mais ce titre d'enfant héritier, rien au monde ne peut le lui donner. Il était conscient qu'il pourrait être riche sans être héritier. C'est là qu'il a compris que le plus important, c'est son titre de fils et non l'héritage qu'il avait. Alors, pour clôturer ce message, pour toi, pour moi, Que représente pour nous être enfant de Dieu? Quelle est la valeur de cette position que tu as vis-à-vis de ton Père? Afin de répondre à cette question qui semble peut-être si facile, mais au fond, nous dévaluons la place que Dieu nous a donnée. Nous banalisons le titre d'enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu? Oui, je sais que je suis enfant de Dieu, oui, comme si c'était rien du tout. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Encore deux frères. Ésaü, celui qui avait le titre de l'aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tronqué son droit d'aînesse par un pontage roux. Vous voyez, quand on ne sait pas la valeur de ce que Dieu nous donne, voilà le résultat. Et dans ce monde qui va et qui court à sa perte, ne vends pas ton âme au diable, chers frères et sœurs. Ne vends pas ton âme à ce monde. Le Seigneur t'appelle à revoir, à reconsidérer ton titre d'héritier du Père et co-héritier de son Fils Jésus. Et alors, comme Paul nous dira aussi dans Romains chapitre 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le péril? Ou l'épée? Personne. Parce que tu es l'héritier du royaume de Dieu. Amen.